Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, et au chapitre 19. L'évangile de Jean, chapitre 19. Nous sommes toujours dans cette série de prédications intitulée « Nous, nous prêchons Christ crucifié ». Et comme cela vient d'être si bien dit, tout est dans la croix, et si Christ n'est pas mort, si Christ n'était pas venu dans les conditions où il était venu, eh bien, nous serions malheureux. Donc, Jean chapitre 19, et là, nous allons lire juste la fin de ce que se passe sur la croix. Donc, à partir... nous allons lire à partir du verset 23. Donc Jean 19 et à partir du verset 23 jusqu'au verset 30. Donc les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Donc, prophétie faite par David, 1000 ans avant. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle le disciple qu'il aimait, donc Jean, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif !» Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en mirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc la dernière parole, elle n'est pas mentionnée ici, elle est mentionnée dans un autre évangile. C'est après avoir dit « Tout est accompli », il dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Donc, mais là, c'est en gros, dans sa mission, dans ce qu'il voulait accomplir, ce pourquoi il était venu, eh bien, la dernière parole, c'est « Tout est accompli ». C'est cette pensée-là que nous voulons méditer ce matin. Donc, une personne est venue vers un évangéliste, c'est-à-dire celui qui a le don de l'évangélisation, et pour l'éprouver. Et il dit... Elle dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Bon, c'est une question qui, vous avez rencontré toutes sortes de réponses dans le monde. Mais il parle à cet évangéliste, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? L'évangéliste a répondu, c'est trop tard. Il n'est plus possible de faire quelque chose pour être sauvé. Il dit, c'est trop tard, ça y est. Pourquoi alors la personne, elle est un peu étonnée. Elle pense qu'elle n'a pas été comprise et elle dit non, mais qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? Et l'évangéliste répond, c'est trop tard pour faire quelque chose. Le Seigneur Jésus a déjà tout fait sur la croix. Il n'y a plus rien à ajouter. C'est trop tard, vous êtes trop tard. Mais ça étonne un peu, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Tout est déjà accompli. Vous savez quand... Je ne sais pas quelle idée vous vous êtes faite des conditions quand Jésus a dit « Tout est accompli », parce qu'il n'y a pas le son ici.
Donc, est-ce qu'il a marmonné, il a dit « bon, tout est accompli » ou est-ce qu'il a crié ? En fait, en lisant les évangiles, et dans, lorsqu'on lit dans, dans Matthieu, il dit « il s'est écrié ». Jésus a crié quelquefois, hein, mais devant la tombe de Lazare, il a crié « Lazare, sort !» Et l'impossible est arrivé. Et là, il crie aussi. Hein, pourtant, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'a pas besoin que, qu'elle soit à haute voix pour qu'elle soit puissante. Elle est puissante d'elle-même. Mais là, moi, je la comprends comme un cri de victoire. C'est un peu, j'ai imaginé, c'est un peu comme le Eureka d'Archimède, quand il a dit « j'ai trouvé ». C'est quand il faisait des recherches, enfin il a trouvé ce qu'on appelle la poussée d'Archimède, et c'était... Et il était content. Et dans ce sens, Jésus arrive à la fin d'une mission et dit « Tout est accompli, c'est terminé hein. ». C'est comme dans le Tour de France, c'est celui qui arrive, qui traverse la ligne d'arrivée, le premier, il jette ses bras en l'air. Et... c'est un cri de victoire. Tout est accompli. Et puis, il voulait que tous l'entendent aussi. C'est une déclaration, parole de Dieu, une déclaration qui... dont on entend encore l'écho. Hein. La preuve, nous sommes là. C'était... et puis après, vous savez, c'est extraordinaire, c'est que juste après, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Dans le sens que dit, j'ai plus besoin de rester ici. Pas besoin d'une minute de plus. Ça y est, c'est accompli, maintenant, je peux partir. C'était quand même souffrance pour Christ d'être sur terre. Et il est resté jusqu'à ce que ça soit accompli. Après, il a dit, bon, je pars. Mais le fait qu'il parte, eh bien, ça confirme le fait que c'était fait. Tout était accompli. Et donc, cette déclaration du Seigneur, tout est accompli, eh bien, c'est une parole, c'est une victoire qui est remportée, c'est l'accomplissement d'une prophétie, c'est la fin d'un système compliqué que Moïse avait instauré, c'est la fin de cette prêtrise et tous ces sacrifices et tous ces animaux, c'est la fin, ça dit, tout est accompli, ça y est, il n'y a plus rien. Et puis c'était... tout est accompli, vous vous souvenez, et puis on reviendra dessus, mais le voile est déchiré et l'accès à la présence de Dieu. Donc c'était vraiment, c'était quand il a déclaré ça, ça a mis fin à beaucoup de choses, c'était l'accomplissement de tant de choses, c'était le commencement d'une alliance nouvelle. Donc cette parole-là, c'est une parole puissante. Bon, elle a été mentionnée tout à l'heure dans une prière, et c'est vrai qu'il faut que ça revienne toujours à notre esprit pour nous rassurer, tout est réellement accompli. Premièrement, je vais voir le cri de Jésus, hein, ce cri de « tout est accompli » marquait la fin d'un sacerdoce aaronique, hein, de Aaron. Vous savez, les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, eh bien, où ils étaient esclaves, mais ça, c'est pas la pire des choses, mais c'est qu'ils n'avaient plus aucune connaissance de Dieu. Vaguement, ils se souvenaient que Abraham, Isaac et Jacob avaient eu un Dieu, mais ça, Jacob, il est mort depuis plus de 400 ans. Hein. Et ils n'ont plus aucune connaissance, ils ne savent plus ni prier, ni rien du tout, ni faire appel. Ils nous disaient que leur cri montait au ciel. Un peu comme beaucoup de gens encore aujourd'hui, toutes les religions crient vers le ciel, d'une manière ou d'une autre. Et tous n'aboutissent pas, mais Dieu entend le cri, et Jésus-Christ était la réponse à ce cri, et à ces cris. Mais là, les enfants d'Israël, ils étaient là, et ils n'avaient surtout pas une conception d'un Dieu saint, d'un Dieu qui ne pouvait pas tolérer le péché. Alors ça, c'était la... C'est un peu, hein, c'est dans une circonstance dans laquelle on se trouve un peu aujourd'hui, hein, dans notre société, qui est-ce qui est mal ? C'est mal seulement si ça fait mal à quelqu'un, et encore. Hein, et encore. Parce que on est en France, hein, où il y a les droits, il y a tout ceci, et pourtant il y a des épouses qui crient, il y a des enfants qui crient, il y a des gens dans la rue qui crient, il y a des cris de partout. Il y a la souffrance, elle est là. Et il y a ceux qui sont dans les hôpitaux et qui crient. Et partout, il y a une souffrance. Et là, mais la notion d'un Dieu saint qui ne peut pas tolérer le péché, c'était une notion vraiment étrangère. Et alors, la première chose que Dieu devait faire, c'est d'inculquer cette notion du péché, de l'offense, de la désobéissance. Et alors, justement, c'est pour cela qu'il a révélé à Moïse, sur le mont Sinaï, tout ce système. Hein, et si vous avez lu ces passages et vous avez trouvé ça fastidieux, vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers. C'était fastidieux, c'était compliqué, c'était constamment des sacrifices, constamment des règles, et puis il fallait le faire d'une certaine manière. Et si ce n'était pas respecté, ça, les choses allaient de travers. Alors, il y avait les sacrifices, et combien de sacrifices, et puis un certain ordre, et tout ça. Et puis il fallait inventer une prêtrise aussi, des prêtres, et eux devaient vivre certaines vies, ils avaient leurs règles. Mais ce qu'il y avait, et c'est ça, ils appelaient ça la tente du témoignage, mais c'était, il y avait le tabernacle au milieu. Ça, Dieu, il a dit, moi je veux que le tabernacle soit au milieu, parce que je veux communiquer le message que je veux être parmi mon peuple. Et donc ça, c'était une première chose, c'était que je veux être parmi mon peuple. Mais lorsque vous regardez de près les détails du tabernacle, vous voyez qu'il y a des voiles et que c'était impossible de rentrer. Donc, Dieu, tu veux être là et en même temps, tu nous barres la route. Oui, mais on a besoin de comprendre que ça, c'est réellement la situation. C'est que Dieu veut, depuis toujours, dans le jardin d'Éden, qui est-ce qui est venu le premier vers Adam et Ève? C'est Dieu. C'est lui qui a cherché, c'est lui qui a dit, Adam, où es-tu? Et encore aujourd'hui, on pourrait mettre notre nom là, et il pourrait dire, Steve, où es-tu? Et puis chacun de nos noms, où es-tu? Et là, mais il y a un premier voile, et puis il y a un deuxième voile, et puis après toute une cérémonie, tout ça, pour que le prêtre, une fois par an, puisse porter du sang derrière le second voile. C'était compliqué, c'était complexe. Mais c'était là, c'est pour... communiquer un message, c'est que normalement, je suis un Dieu saint et vous n'avez pas accès à cause de votre état pécheur, à cause de vos désobéissances, à cause de vos actes, vos pensées, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Il dit, vous n'avez pas accès. Mais moi, je voudrais vous donner accès. Et donc, à faire ce système complexe, à l'aide de prêtres et de sacrifices, eh bien, de temps à autre, on pouvait faire passer du sang jusqu'à dans le lieu très saint. Et Dieu voulait dire, écoutez, il y a un moyen, il y a un seul moyen, et c'est par le moyen d'un sacrifice sanglant, du sang qui est porté, et c'est le seul moyen d'accès. Et pendant des années, depuis Moïse jusqu'à Christ, c'était ça, ce message était tellement inculqué que quand Jésus est venu, eh ben, ils avaient tellement l'habitude, ils disaient non, on continue, d'où le besoin de l'épître aux Hébreux, hein, pour leur dire, mais non, mais ça y est, maintenant, c'est terminé. Mais ce qu'ils ont quand même constaté, au fur et à mesure des années, c'est que même malgré ces sacrifices, même si on amenait un agneau, sans défaut, et on faisait tout selon les règles que Dieu avait imposées, et on faisait tout cela, mais c'est qu'il fallait recommencer l'année d'après. Dans un sens, on faisait comme Dieu disait de faire, et en même temps, ça ne suffisait pas. C'est-à-dire, l'adorateur trouvait que la voie était encore fermée. Et ça devait être... si je me mettais à leur place, avec ce que je sais maintenant, je dis ça, mais ça devrait être frustrant. Toujours recommence, toujours on revient, la même cérémonie, la même chose, et en même temps, c'est bon, et en même temps, ça ne suffit pas. Et c'est, ça nous rappelle un petit peu ce passage dans Hébreux 10, verset 4, et je vous le lis. Il dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il dit, c'est impossible. On peut faire la cérémonie. Il a dit, le symbole est là, le geste est là, tout est là, mais le sang, c'est pas pour un être humain, il faut que ce soit un sang humain. Et même dans Hébreux chapitre 9 et les versets 8 et 9, c'est si bien dit, il dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que les premiers tabernacles subsistaient. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Il disait, c'était bien, ça, le message était clair, ça communiquait vraiment le principe, mais malheureusement c'était qu'un symbole et ça ne suffisait pas. Et en Hébreux chapitre 9, verset 10, il nous dit que tout cela continuait jusqu'à un jour de réformation. Le mot « réformation », et c'est un mot grec que l'on trouve uniquement à cet endroit-là, c'est un grec particulier, un mot qu'on trouve que là, dans la Bible, dit « orthosis ». Ortho, vous connaissez, on le trouve dans « orthographe hein, », s'il y a des règles qui permettent de corriger les mots, hein, d'écrire correctement. Et c'est ce principe de... Il dit, il y a jusqu'au jour où les choses seront vraiment redressées et rendues complètes, correctes. Donc, avec tous ces sacrifices, c'était des efforts, c'était le symbole, c'était tout cela, mais ça n'a réalisé jamais le problème. Et donc, il a dit, mais il fallait le faire jusqu'à un jour où ça allait être corrigé pour de bon. Il nous amène jusqu'au jour où, on le lit, c'est que quand Jésus était sur la croix, à l'instant où il a dit « tout est accompli », eh bien, le voile dans le temple s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Si ça avait été des hommes qui l'avaient fait, et encore, il fallait pouvoir le faire, parce que c'était un voile qui ne se déchirait pas facilement, et barré. Mais il s'est déchiré du haut vers le bas, c'est du ciel que ça vient. Et pour la première fois depuis Moïse, le voile est déchiré et on peut voir jusque dans le lieu très saint. C'est arrivé au moment où Jésus a dit « tout est accompli ». Parce que là, c'était vraiment le sacrifice qu'il fallait, qui pouvait obtenir vraiment le pardon des péchés. Donc Jésus... Dans son sacrifice, il a respecté toutes les règles. C'était l'agneau parfait, choisi par Dieu. Et même chaque fois qu'il choisissait un agneau, il devait le garder 2-3 jours pour être sûr qu'il n'était pas malade, que rien n'allait se développer. Jésus a 33 ans, il était là pour confirmer qu'il était vraiment pur. Imaginez, nous, moi j'arrive à rester toute la nuit sans pécher presque. Jésus était pendant 33 ans sans péché. Et quand on a voulu trouver quelque chose, il fallait inventer un mensonge. Et même Pilate, il a dit, moi je ne trouve rien chez lui. Pourtant, il était bien disposé, il essayait avec les Juifs, il dit, je veux bien vous rendre service, mais moi je ne trouverai vraiment rien. Et même Judas, qui avait tellement de mauvaises intentions, il a dit, mais c'est du sang innocent que j'ai trahi, là. Mais peu importe de quelle direction il voyait Jésus, c'était toujours, mais c'est un homme sans péché. Ça a été confirmé. C'était un agneau qui était digne d'être offert. Et c'était un homme et qui a pu mourir pour les hommes. Et donc, là, c'était l'inauguration d'une nouvelle alliance que Jésus avait annoncé la veille dans la chambre haute. Vous vous souvenez, quand il a servi la coupe, il a dit, c'est une nouvelle alliance, hein, mon sang. Et là, c'était le commencement d'une nouvelle alliance, supérieure à la précédente, non pas parce que celle qui était avant n'était moins. La précédente était bien dans le sens que elle a fait ce qu'elle devait faire. C'est nous donner cette idée de cette notion de la sainteté de Dieu et du péché de l'homme. Et qu'il y avait un seul moyen d'obtenir le pardon. Parce qu'une faute, ça se paye. Quelqu'un la paye. Soit c'est le coupable qui la paye, c'est pour ça qu'on a des prisons, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui dit « Je t'excuse, c'est moi qui prends la charge. Hein, » Mais il y a quelqu'un qui doit payer. Hein. C'est si le juge, au lieu de condamner la personne, dit « Écoutez, moi je vous pardonne, partez libre », eh bien c'est la victime qui est en train de payer. Mais il y a quelqu'un qui paye. Toujours. Et on ne peut pas échapper. Donc là, Jésus a dit « Moi, je prends tout sur moi. » Et donc, là, nous avons tout ce système, ce système passé qu'on appelle la loi mosaïque, tout ça, ça ne pouvait pas sauver, mais ce que ça a eu, ça nous permettait de comprendre pourquoi Jésus est mort. Et de comprendre... Pourquoi c'était nécessaire? Parce que c'est vraiment la croix, c'est pas beau. Hein, y a des films qui ont été faits sur cette partie-là. Mais d'un autre côté, c'était le seul moyen. Et la loi de Moïse nous disait que c'était le seul moyen. Et imaginez un Dieu juste et plein d'amour, eh bien, si c'était pas nécessaire, il l'aurait pas fait. Donc, le cri de Jésus marquait la fin d'un sacerdoce. On n'a plus besoin ni de sacrifice, ni de prêtrise, ni rien du tout. La voie, elle est ouverte. On peut tous passer. Deuxièmement, le cri de Jésus signalait l'accomplissement de prophéties. Bon, il y a une première prophétie qui n'était pas faite directement à Adam et Ève, mais qui s'était contenue dans la malédiction sur le serpent. Parce que Dieu dit au serpent, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ah, tu vas le blesser, mais lui, il t'écrasera la tête. Et donc, c'est indirectement, il maudissait Satan, mais en le disant, eh ben, il disait « Mais c'est le descendant de cette femme qui va... qui va te vaincre. » Ça devait être un drôle de soulagement hein, pour Ève quand elle a compris ça, parce qu'elle a dit « Ah, c'est ma faute, c'est moi, j'ai entraîné mon mari et tout ça. » Mais la promesse a dit « Non, non, mais il y a une réponse. » Et pour nous tous. C'est cette... Vous savez, le cri de Jésus sur la croix, tetelestai, tout est accompli, c'était un seul mot en grec, eh bien, c'est comme le coup de sifflet à la fin d'un match, hein, quand l'arbitre il siffle la fin du match, c'est que tout s'arrête là, c'est terminé. On peut ni améliorer, vous pouvez, après le coup de sifflet, vous pouvez marquer tous les buts que vous voulez, ça compte pas. Il n'y a plus rien à ajouter, on ne change pas le score, c'est la fin. Et bien c'est que ce Jésus-là, quand il a dit tout est accompli, c'était la fin et tout est réalisé et on ne peut pas améliorer. Donc c'est sûr que, et là c'était l'accomplissement de cette prophétie et donc la condamnation qui était survenue sur l'humanité à cause de la désobéissance de nos parents, Adam et Ève, eh bien, elle est levée. Jésus avait rappelé Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Parce qu'il y a les péchés, ce sont les actes. Le péché, c'est cette nature pécheresse qui est là. Il a dit « Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Personne n'ira en enfer parce que Adam et Ève ont péché. » Mais nous avons quand même un petit bagage à nous. Hein. Bon, après, mais ça, on a besoin de nous-mêmes de voir pour ça. Alors, tout ce que représentait, je parlais tout à l'heure du tabernacle et puis du sacerdoce d'Aaron et tous les sacrifices, tout ça. Mais vous savez, En fait, ce tabernacle, c'était une prophétie. Parce que ça, ce n'était qu'un symbole. Ce n'était que du rituel, mais qui attendait un accomplissement. C'était en vue d'eux, c'était une annonce. Et c'est grâce à ce système que, bien sûr, comme je viens de le dire, que nous avons pu comprendre pourquoi il était nécessaire que Jésus meure sur la croix. Mais de nos jours, ceux qui ressentent le besoin de continuer ce rituel, parce que vous pouvez trouver dans certains milieux, il y a encore des prêtrises, il y a encore un sacrifice, il y a le corps, il y a le sang de Christ, et puis on recommence chaque fois, et puis chaque fois c'est la personne... Mais demander à ces gens, demander, mais est-ce que tu vraiment, oui, peut-être que le prêtre t'a dit, je t'absous, mais est-ce que tu te sens absous devant Dieu? Tu te retrouves, ils se retrouvent, ces pauvres gens se retrouvent un peu comme les enfants d'Israël. On fait tout correctement, on est là, on est sincère, autant sincère qu'on veut. Il y avait une période où il fallait même confesser les péchés au prêtre pour obtenir l'absolution, le pardon. Mais est-ce qu'on repartait se sentant mieux? Peut-être sûr pour quelques minutes, mais après, l'impression que rien n'a changé. Mais ça ne peut pas. Depuis que Jésus a dit « Tout est accompli », on n'a plus besoin de cela. Ou bien, dernièrement, il y a ceux qui ont fait un pèlerinage au loin et puis qui ont sacrifié des moutons et puis qui ont fait tout cela pour obtenir le pardon de leurs péchés, mais ils reviennent et puis tu lui dis ah « Bon, alors, tes péchés sont pardonnés ?» Ben, j'espère. Mais ça doit être frustrant. Ça doit être frustrant. Mais vous savez, avant que Jésus meure sur la croix, c'était toujours « faites ceci, faites cela, faites encore cela, faites encore et encore un peu plus. Et faites, c'est... » Mais depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix, eh bien la réponse de Dieu c'est fait. Tu ne peux rien faire. Hein? Tu peux tirer tout sur ta moustache, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ça ne changera rien. C'est fait. Tu ne peux rien ajouter. C'est complet. Et puis, qui peut prétendre faire mieux que ce que Jésus a fait? Si Dieu a accepté ce que Jésus a fait, eh bien alors, qu'est-ce que tu veux ajouter? Quand vous avez quelque chose de parfait, ne touchez plus, parce que dès que vous touchez, ça sera plus parfait. Hein? Que ce soit l'artiste, qui arrive et dit ah, c'est bon, je vais toucher là. C'est plus, on peut pas, une fois que c'est parfait, on peut plus, on doit plus toucher. Et bien, si l'œuvre de Christ sur la croix était parfaite et elle satisfaisait pleinement les exigences de Dieu, alors n'essayez pas d'ajouter quelque chose par ni une prière, ni par un jeûne, ni par autre chose. Vous pouvez rien ajouter. Parce que ce serait dire ce que tu as fait est insuffisant. Vous savez, depuis la croix et depuis que Jésus a dit tout est accompli, eh bien je peux dire à n'importe qui ce qu'on trouve dans l'Épître aux Romains. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tout simplement. C'est pas si tu fais ceci, si tu fais cela, et si tu persévères comme ça, puis si tu ne tombes pas, et si tu ne recules pas, et si tu fais ceci, cela. Oh, les gens sont compliqués, ils sont plus compliqués que Dieu. Combien de gens souffrent à cause des religions? Jésus disait, vos disciples, vous les chargez plus que ce que vous portez vous-même. Et les hommes sont cruels. On s'est inventé des systèmes, on charge, on fait souffrir du monde. Et lisez l'histoire de n'importe quel pays, vous voyez combien on a souffert à cause d'un enseignement qui dit « fais pour gagner le ciel ». Et on manipule. Et ceux qui l'ont fait, ils vont payer cher. Parce qu'ils ont mal représenté Dieu. Mais la Bible nous dit, et ça date depuis les premiers siècles. Hein. si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire tu reconnais qui il est, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est-à-dire que si tu crois qu'il est ressuscité, c'est qu'il faut croire qu'il est mort. Hein. Les pauvres gens qui ne croient pas qu'il est mort, ben, ils n'ont rien. Donc ils sont obligés de continuer à faire des choses. Ou ceux qui croient que cette mort n'est pas suffisante et il a essayé de la répéter régulièrement, ben, c'est un problème aussi. Mais dis, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Point. Et tu ne peux pas faire mieux. Accepte ce qui est bien fait, mais ne touche pas. Pour vous les... Bon, je ne peux plus dire, vous les dames qui faites la cuisine, parce qu'il y a des messieurs qui font la cuisine aussi, qui font bien aussi. Mais vous savez, ceux qui vous faites quelque chose de bien, vous savez que c'est bien fait, puis il y a quelqu'un qui s'amène et puis qui ajoute un petit quelque chose. Ou qui... On n'aime pas ça, hein. Mais pourquoi faire ça à Dieu? Il a déjà fait quelque chose et il a fait, excusez-moi l'expression, il a fait une bonne cuisine. Il a fait un bon plat. Maintenant, pourquoi veux-tu venir ajouter quelque chose? Laisse, touche pas. Et même l'apôtre Paul dit aux Romains, aux chrétiens de Rome à son époque, dans Romains 6, verset 15, il dit « Quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce ?» Loin de là. Il dit « Maintenant, si tu ne pèches pas, si tu vis pour Dieu, ce n'est pas pour être sauvé, c'est parce que tu es sauvé. » Donc, ce n'est pas une question. Hein. Celui qui dit oh, « bah, maintenant, bon, bah, si on est pardonné, tout est bon, bah, oh, je fais n'importe quoi, il pardonne, et puis en plus, ça lui fait plaisir de pardonner. » Donc, c'est bon. Celui-là, il n'a rien compris. Il n'est pas passé par la croix, lui. Il n'a pas vu ce que ça a coûté. Mais c'est une question de « je viens à la croix, je dis « Seigneur Jésus, je ne comprends pas comment tu l'as fait, mais puisque tu l'as fait et tu l'as fait pour moi, je le reçois, je te demande le pardon de mes péchés. » Et Jésus veut pardonner parce que les premières paroles de Christ sur la croix étaient « Père, pardonne-leur ». Donc il est, c'est dans son esprit, dans ses pensées. Hein. Donc je viens à la croix, je dis « Seigneur, pardonne-moi mes péchés. » Et maintenant, puisque nous sommes après la croix, nous pouvons dire « Mais je crois que tu es mort et que tu es ressuscité. Et maintenant, eh bien, je veux croire à mon pardon. Maintenant, je veux vivre pour toi. » C'est comme celui qui est, c'est l'enfant qui a été adopté. Adoption plénière. Ça y est, il est même héritier maintenant. Et puis, il est constamment en train de dire oh, « Qu'est-ce que je peux faire pour que vous m'aimiez, pour que vraiment vous... » Mais ils disent, mais ça y est, on t'aime, on t'a reçu, tiens, à nous. Ah non, c'est trop simple ça, moi, j'ai rien fait, moi j'ai pris bébé, j'ai comme ça, j'avais rien fait, moi, faut que je... Non, t'as rien à faire. Comporte-toi comme un fils, c'est tout. Et c'est tout ce qu'on peut, et c'est tout ce qu'on peut faire avec Dieu. Tu m'as tout donné, tu m'appelles ton enfant maintenant. Eh bien, il dit, écoute... Vis comme un enfant de Dieu. Vous êtes des enfants de lumière? Ben, mais vivez comme des enfants de lumière. Donc, ce n'est plus une question de vivre une certaine vie, d'essayer de se compliquer, de se charger de choses pour gagner le ciel. C'est je vis dans la joie parce que je l'ai. Ça change tout. On a dit que le cri, c'est marqué la fin d'un certain régime qui était là pour nous éduquer. Et puis on a dit que la croix, c'est l'accomplissement des prophéties. Et puis j'aurais pu élaborer encore beaucoup plus. Mais aussi, il y a le cri de Jésus, c'est le cri qui ouvre la voie. C'est le cri qui ouvre. Quand Jésus a crié « Tout est accompli », eh bien, c'est l'équivalent de lorsque... J'en ai eu une cette semaine... J'ai jamais la voiture chez Volkswagen. Et puis, ils ont fait... Et après, la facture, ils me l'ont présentée. Bon, ça fait toujours plaisir. Non. Et bon, moi, j'ai donné un petit bout de plastique, là, qu'ils ont mis dans leur machine. Et puis, une fois que le petit papier est sorti, hein, après, elle a tamponné. Qu'est-ce qu'elle a tamponné? Payé. Eh bien, finalement, à l'époque, c'était le mot que Jésus a prononcé, c'était le mot qu'on employait à l'époque pour dire c'est la dette est complètement réglée, il n'y a plus de dette. Et là, chez Volkswagen, là, avec autant, hein, je pense qu'ils aiment l'argent, mais je n'aurais pas pu payer plus. J'aurais pas pu ajouter. J'aurais dit, non, oui, c'est payé, monsieur. Mais écoutez, moi, je ne suis pas sûr, parce que quand même, vous avez ceci, puis vous avez des frais, vous avez ceci. Non, monsieur, c'est payé. Non. Mais ne faisons pas ça. Je ne fais pas ça avec Volkswagen. Pourquoi je vais faire ça avec Dieu? Il dit, c'est payé. Pour moi, c'est payé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ben, merci. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Mais c'est ça. C'est ça le message de l'évangile. C'est pour ça que les anges, quand ils ont parlé aux bergers, ils ont dit, mais je vous annonce une bonne nouvelle. Il y a celui qui vient qui va tout changer pour vous. Il met la fin à certains systèmes et puis il vous donne autre chose. Vous savez, sur la croix, Jésus n'a pas seulement fait une avance. Il dit, ben, ces gens-là, ils ont une dette, moi, je vais payer un pourcentage, mais après, eux, il faut qu'ils continuent à faire des remboursements. Hein. Non, c'était pas, il n'y a pas une avance. Il a payé la dette. Il a tout payé. Et la dette est complètement remise. Il n'y a absolument rien qui puisse ajouter et il n'accepte plus rien. Je peux aller me fatiguer et dire, mais Seigneur, je voudrais faire un peu plus pour toi, je veux faire ceci, cela. Il dit, mais tu t'épuises pour rien, parce que je ne demande rien. Tout ce que je veux, c'est que tu vives pour moi et que tu vives ta reconnaissance. Et que tu n'aies pas honte de moi. En fait, tout à l'heure, avec le frère, il a lu dans Colossiens chapitre 2, et c'est, ça ne peut pas être mieux dit que ce qui avait été dit là. Hein. Colossiens chapitre 2, versets 13 et 14, il dit, vous étiez morts par vos offenses et l'incirconcision de votre cœur, votre chair. Vous étiez morts. Il dit, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous faisons grâce. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, on devrait payer, mais on ne va pas payer. C'est ça. Il dit, vous étiez mort, mais il vous a rendu à la vie. Et verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Quand je pense à effacer, moi, quand j'étais à l'école, on avait des tableaux noirs. Et les profs écrivaient avec la craie. Et puis, je ne sais pas combien de poussières de craie eux ont avalé et le premier rang d'élèves. Mais effacer, ça veut dire que ce qui était marqué, et tout d'un coup, et ça partait. Maintenant, sur les ordinateurs, il y a le truc, un bouton qu'on peut appuyer, et ça disparaît de l'écran, mais ça ne disparaît pas de l'ordinateur. Dieu pardonne mieux que ça. Et il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus était cloué à la croix. Mais il n'y a pas que lui. Il y a tout ce dossier que vous aviez auprès de Dieu, hein, ce casier judiciaire qui était auprès de Dieu, et bien ça aussi, ça a été cloué sur la croix. Je me rappelle, je connaissais quelqu'un qui avait fait de la prison, c'était à une époque, et puis entre-temps, il est venu au Seigneur et tout ça, mais bon, le Seigneur pardonne tout ça, mais vis-à-vis de la société, il avait encore une dette. Et puis un jour, il m'a dit, Steve, regarde. Il dit, j'ai reçu mon nouveau casier judiciaire. Il est vierge. On m'a tout enlevé. Il était content. Mais vous savez, c'est ça qu'il nous dit ici. Il dit, en fait, quand vous lisez l'évangile, il vous dit, écoute, si tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés, tu crois que Jésus est ressuscité des morts, et qu'il est là et qu'il a un avenir pour toi. Eh bien, il dit, le dossier, il est propre vis-à-vis de Dieu. Quand Dieu te regarde, il ne voit aucune faute. Oh, moi, j'en vois encore. Hein, quand je me regarde dans le miroir, j'en vois encore. Ma femme, elle en voit quelques-uns aussi. Mais Dieu n'en voit plus. Et donc, son comportement est lié à cela. Si lui n'en voit pas, comment il va se comporter autrement, hein? Moi, je regarde Sophie, là, elle me paraît sainte. Parce que je ne la connais pas très bien, peut-être. Mais, je vais me comporter avec elle comme une personne qui n'a jamais rien dit de mal sur moi, comme une personne qui ne m'a jamais fait de tort, et rien du tout. C'est vrai, pour moi, ce qui me concerne. Et donc, je vais bien me comporter vis-à-vis d'elle. Et Dieu nous voit comme maintenant, comme ayant jamais accompli quoi que ce soit. Et pourquoi? Parce qu'il nous regarde au travers de la croix. Quand il met ce filtre de la croix devant ses yeux, il nous voit saints. Et il nous appelle saints même. Alors que nous, de notre côté, on dit, c'est pas encore là. Hein. Et on le confirme régulièrement. Jésus a déchiré le voile qui fermait l'accès. C'était clair, toute la Bible, depuis le début de la Bible, depuis les premiers chapitres, c'est clair que Dieu veut avoir des relations avec nous. Mais il y avait un barrage. Et là, il a fait le nécessaire. Donc il a payé le prix, il a réglé la dette, parce que Dieu dit dans Ésaïe 59, verset 2, il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc lui-même aussi, lui, il avait un problème par rapport à nous. Il y avait quelque chose qui l'empêchait d'avoir affaire à nous. Donc sur la croix, Jésus a déchiré les deux côtés du voile. Du côté de Dieu, il a enlevé le péché. Du côté de nous, ce qui nous barrait l'accès. Ça, c'est pour ça qu'il est appelé un médiateur. Il dit, nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, l'homme. Et si on en a un bon, on ne va pas chercher un autre. Les prêtres de l'Ancien Testament, il n'y avait pas de siège. Vous regardez, vous lisez tout l'Ancien Testament, vous ne trouvez nulle part une chaise dans le temple, dans le tabernacle. Parce que les péchés des hommes, c'était constant. Ça tournait tout le temps. Le sacrifice, le feu, il ne s'éteignait jamais sur l'autel. Mais vous savez ce que Jésus a fait quand, en quittant la terre, il est monté en ciel et s'est assis à la droite du Père. Ce qui confirme que tout était terminé. L'œuvre était accomplie. Tout est accompli. C'est le cri de Dieu. Mais ça devrait être, et c'est le soulagement pour nous. Ça, c'est de l'amour, ça. Quand Dieu dit « je vous aime », eh bien, il l'a prouvé. Hein. Mais c'est à nous de répondre à l'amour. Et on ne peut pas l'aimer comme il nous a aimés, mais on peut l'aimer comme on peut. Et déjà reconnaître. Alors, et comme disait notre frère tout à l'heure, il disait « mais ce n'est pas seulement pour les pécheurs, mais c'est pour même les enfants de Dieu. Hein. Des fois, on a besoin, la croix, elle est toujours là pour... Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie, pas nous a purifiés, nous purifie constamment de nos péchés. Celui qui dit dans le présent, je n'ai point de péché, c'est un menteur. On a besoin de ce sang, et ce sang agit encore aujourd'hui. Dites, je ne comprends pas comment ça marche, moi non plus. Le truc, c'est que ça marche. Si vous vouliez utilisez uniquement ce que vous comprenez, comment ça fonctionne, vous serez encore avec une brouette. Moi, j'essaie d'être pragmatique, surtout quand ça concerne les choses de Dieu. Ça marche, alléluia. Et un jour, je serai en mesure de pouvoir comprendre ce qui m'échappe aujourd'hui. Mais ce que j'ai compris, c'est que Dieu m'aime. Que Dieu a fait le nécessaire en envoyant Jésus-Christ sur la croix. Il n'est pas resté une minute de plus. Il a dit, c'est terminé, mon âme, je repars. Et parce que l'œuvre était accomplie. Il a été jusqu'au bout. Nous allons passer quelques moments où je vais donner l'occasion à chacun de prier tout seul, dans son cœur, de dire au Seigneur ce qu'il a besoin de dire. Seigneur, ça m'échappe, c'est trop pour moi. Aide-moi à comprendre. Ou bien, Seigneur, pardonne-moi mon péché. Je comprends un peu ce que ça veut dire. Ou même, c'est merci, Seigneur, pour ce que tu as pourvu. Mais que chacun dans son cœur puisse, en fonction des pensées qui ont traversé son esprit, ce que l'esprit a pu lui dire pendant la prédication, eh bien, redites-le au Seigneur.